Place Info.
Bonjour Michel Platini.
Bonjour.
Trois fois Ballon d'Or, trois fois président de l'UEFA. Vous sortez de 4 ans de silence après avoir été définitivement blanchi par la justice pour des faits sur lesquels on va revenir et sur des faits dans lesquels vous parlez dans votre livre qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Entre nous. Merci d'avoir choisi France Info pour votre tour. Je voudrais d'abord savoir dans quel état d'esprit vous êtes ce matin avec nous. Serein, combatif ou revanchard ?
Serein.
Serein ? Revanchard, pas du tout ?
On verra plus tard.
Vous racontez pendant cette épreuve que vous venez de traverser jusqu'à ce que la justice vous blanchisse il y a quelques mois. Et vous arrivez de sortir de chez vous avec des lunettes noires pour pas qu'on vous reconnaisse dans
casquette.
La rue. Une casquette. C'était à ce point-là.
C'est difficile. Hein. Vous savez que bon, dans toute affaire, il y a déjà l'affaire médiatique avant n'importe quelle autre affaire. Et là, ce que j'ai pris du monde entier pendant un mois, c'était... incroyable, quoi. Vous savez, on m'a quand même traité de falsificateur de comptes, de corrupteur, de blanchisseur d'argent. Quand vous prenez ça dans la tronche et vous savez toujours pas pourquoi, ça fait du mal. Alors, vous êtes quelqu'un de connu parce que ça vient pas du Républicain Lorrain, hein. Ça vient du monde entier, hein, tout ce que vous prenez. Alimenté par la FIFA. Donc, vous essayez de comprendre et puis vous êtes tellement mal à l'aise que vous savez pas quel est le regard des gens, lequel regard les gens vont porter sur vous.
Et les gens qui vous reconnaissaient dans la rue, ils vous disaient quoi?
Bat-toi. Mais c'est compliqué, quoi. Déjà, vous êtes connu. En plus, vous êtes connu d'une façon très négative. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour la famille. C'est compliqué pour tout le monde. Je vous dis, on fait passer pour Al Capone, quoi, pratiquement. Hein. Et donc, bon, c'est des moments difficiles. Ça dure un mois parce que vous comprenez tout ce qui se passe. Puis après un mois, bah, vous comprenez que tout ça, c'est une conspiration, un complot, ce que vous voulez. Et puis, bon, après, bah, vous commencez à vous défendre. Puis, vous essayez de trouver les bonnes parades pour vous défendre. Et puis, à la fin, vous savez que vous gagnerez jamais. Donc, voilà. Donc, tout est pipé depuis le début. Et puis, voilà. On voulait plus que je sois président. On voulait pas que je sois président de la FIFA. Ils ont tout fait.
On va parler de cette affaire, de votre avenir, des grands dossiers du foot d'aujourd'hui, peut-être aussi de l'immigration, si vous voulez bien, dans quelques minutes. Mais d'abord, Renaud Dely.
Justement,
ça tombe bien, je suis un fils d'immigré italien.
C'est un peu pour ça que je vous tends la perche.
Qui s'est rentré dans le football.
On va en parler tout à l'heure, Michel Platini, sans faute. D'abord, cette affaire, effectivement, dont vous tournez la page aussi avec ce livre, c'est une façon de liquider ce passé. Rappelons juste factuellement que vous vous lanciez à l'époque à l'assaut de la présidence de la FIFA, hein, pour devenir le patron du foot mondial. C'est à ce moment-là, donc, que vous avez été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA qui vous accusait d'avoir reçu un paiement déloyal, prétendument déloyal, c'est l'expression, de la part de l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, un paiement de l'ordre de 2 millions de francs suisses. Vous avez d'abord été suspendu par la FIFA 8 ans, puis 6 ans, puis la suspension a été ramenée à 4 ans. La justice, elle, et la justice suisse vous a totalement blanchi dans cette affaire. Et quand on lit votre livre, on a le sentiment, et vous venez d'employer le mot à l'instant, que vous avez été victime d'un complot. C'est qui ? Qui sont les comploteurs ? Qui sont les auteurs de ce complot ? Vous les avez identifiés aujourd'hui ?
C'est pour ça que j'ai porté plainte.
Contre X.
Pour association de malfaiteurs. Bah, X, c'est beaucoup de personnes. Moi, j'ai pas fait l'enquête, mais il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça. Et puis, la justice s'intéressera. C'est difficile, moi, de porter des accusations. J'ai mon idée. Je sais qui a collaboré, qui a essayé de me sortir de tout ça. Je sais qui a essayé aussi que je ne revienne pas dans le football. Maintenant, après, c'est la justice à le décider. Je vais pas porter
des
accusations.
Votre idée, c'est Sepp
Blatter? Sepp Blatter, il a créé une atmosphère contre moi. Puis après, d'autres ont travaillé là-dessus.
Pourquoi?
Pour pas que je sois président.
Vous avez été son bras droit.
Pour pas que je sois président.
Vous avez été proche de lui.
Oui. Mais non, mais moi, je suis rien. Pour pas que je sois président de la FIFA, c'est tout. Donc, il y a des intérêts en jeu. J'ai des valeurs sur le football. Il y a des places. Peut-être que j'aurais pris d'autres personnes. Il y a peut-être des gens qui seraient partis de là. J'aurais peut-être recréé quelque chose, un monde nouveau du football. Et donc, ça n'a pas plu à l'intérieur.
Et celui qui finalement a pris la place, c'est Gianni Infantino. Vous pensez qu'il a participé lui aussi de cette machination dont vous avez été victime ?
La justice le dira.
Vous avez en tout cas une petite idée ?
Oui, j'ai même des grosses idées. Mais après, je ne suis pas un inspecteur ou quelqu'un d'autre. Je suis obligé de laisser la justice le faire, quoi.
Vous avez toujours des contacts aujourd'hui avec Sepp Blatter ?
Non.
Non ?
Depuis quand ?
La dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'est quand je suis venu le défendre au TAS à Lausanne.
Tribunal arbitral du sport.
Parce que quand on avait été tous les deux tous les deux questionnés par la police, par la justice suisse, sur le fameux paiement. On a dit les mêmes choses, que c'est de l'argent qu'il me devait, et point final. Et donc, je suis venu défendre ça au tribunal arbitral du sport. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est que c'est Zeb Blatter qui est au pénal. Mmh. Moi, je suis témoin dans cette affaire. Mmh. Et en étant que témoin, ben, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien, quoi.
Vous revenez aujourd'hui blanchi après cette affaire, Michel Platini. Vous avez des fourmis dans les jambes. Vous avez envie de reprendre des responsabilités dans le foot.
J'ai plus le même âge. J'ai plus le même âge. Bon, les gens qui votent.
Je vous demandais pas une place en équipe de France. C'était plutôt.
J'en parlerai avec Didier Deschamps de ça. On va voir. Pourtant, j'ai tiré un beau coup franc la dernière fois à Jeff et ça peut lui donner des idées. Vous savez. À 64 ans, je pense que si je fais quelque chose, j'ai une dernière aventure à faire. C'est une dernière aventure. Donc, faut pas que je me trompe. Faut que ça soit quelque chose qui me plaise, dans lequel je sois utile. Donc, je prends le temps de regarder.
Donc, c'est forcément dans le monde du football.
Je sais pas faire grand chose d'autre.
C'est ce qui vous plaît toujours, c'est ce qui vous amuse toujours.
Oui, le football me plaît, ses valeurs me plaisent, le jeu me plaît. C'est surtout le jeu qui me plaît. Je suis pas très, comment dire, supporter d'une équipe par rapport à une autre équipe, mais j'ai toujours l'envie de voir des beaux footballeurs, des beaux gestes, des beaux matchs. Et le football est très beau en ce moment, donc c'est intéressant.
Cette aventure, est-ce que ça peut être de repartir à l'assaut de la présidence de la FIFA?
Écoutez, c'est un peu compliqué. Pourquoi pas? On va voir qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, il peut se passer encore plein de choses dans la FIFA, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Donc on va voir comment ça va être.
Ça veut dire que votre décision n'est pas prise pour l'instant?
Non, laissez-moi réfléchir. Et d'autant que tout ce qui est élection, c'est dans quelques années, donc c'est pas d'aujourd'hui.
Avant la FIFA, il y a la Fédération française.
J'étais suspendu 4 ans, qui tombe juste 2 mois après les élections du président de la FIFA. Donc maintenant, c'est dans 4 ans.
C'est un hasard, d'après vous, ce calendrier?
Pas du tout.
C'est-à-dire que le calendrier a été pensé pour que vous ne puissiez pas vous représenter l'année dernière.
Avant la FIFA, il y a la Fédération française de foot qui se libère en fin d'année prochaine. Ça,
c'est dans 2 ans.
Possibilité.
Écoutez, tout est possible et rien n'est possible. Je vais voir. Laissez-moi réfléchir tranquillement.
Bon, on vous laisse réfléchir une petite minute. Il est 8h40. Le rappel de l'actualité avec Mélanie Delonnet et on poursuit cet entretien avec vous, Michel Platini.
13,5 milliards d'euros, la présidence chinoise dévoile le montant des contrats signés au troisième jour de la visite d'Emmanuel Macron. Aéronautique, électricité, finance, mais aussi agroalimentaire. 20 entreprises autorisées à exporter de la volaille, du bœuf et du porc français vers la Chine. Les médecins sont-ils sous influence des laboratoires pharmaceutiques? Les généralistes qui reçoivent des cadeaux des labos ont tendance à faire des prescriptions plus coûteuses. Selon des chercheurs rennais, ils ont croisé les ordonnances de 41 000 docteurs et les avantages perçus. On en connaît déjà une partie. Édouard Philippe annonce 20 mesures sur l'immigration tout à l'heure à 11h. Invité de France Info, le président de la Ligue des droits de l'homme estime que le gouvernement agite des débats qui ne font que participer au climat de xénophobie et de doute. La fin du match était un cauchemar, dit l'entraîneur de Lille. Le LOSC battu 4-1 par Valence et éliminé de la Ligue des champions de football. Lyon se relance en revanche grâce à sa victoire 3-1 sur le Benfica.
France Info. Et tout est plus clair.
Michel Platini, vous aviez voté en 2010 pour l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Les championnats du monde d'athlétisme viennent de se tenir dans ce pays. On ne peut pas dire que ce soit une réussite. Des tribunes vides, des stades qui tournent avec des climatisations toute la journée. Est-ce que vous regrettez votre vote et votre choix
de l'époque ? Pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que j'ai toujours voté pour le développement du football. J'avais voté pour le Maroc 4 ans avant. J'ai créé l'euro en 2020 dans 13 pays parce que ça permettra à beaucoup de pays de recevoir l'euro, de créer des stades et de gagner quelque chose. Puis ça faisait 5-6 fois que le monde arabe avait perdu et donc à un certain moment, écoutez, pour le développement du football, c'est formidable d'aller dans le golf. Maintenant, bien sûr que j'avais demandé deux choses. J'avais demandé que ce soit la Coupe du Monde du golf, c'est-à-dire que le Qatar fasse un effort pour éventuellement ramener avec eux Abu Dhabi, Dubaï, le Bahreïn, tout le Golfe. Puis la deuxième chose, que la Coupe du Monde soit en novembre, en décembre. C'est ce qui va se passer. Donc entre l'athlétisme au mois de septembre et la Coupe du Monde, si vous connaissez la région, entre 40 degrés et 25 degrés, ça sera pas mal de jouer à 25 degrés. Donc ça a été mes conditions, c'est pour ça que j'avais demandé. Donc une des conditions a été faite, c'est-à-dire le calendrier.
Pas la seconde.
Après, ça, c'est un problème politique entre eux, et c'est compliqué là-bas.
Renaud Dely.
Dans le livre, vous parlez de cette attribution, et notamment, il y a ce fameux déjeuner à l'Élysée à l'époque avec Nicolas Sarkozy en 2010, où vous êtes invité à déjeuner par le président de la République. Vous découvrez qu'à table, il y a le prince héritier du Qatar.
Et le Premier ministre.
Et le Premier ministre du Qatar. Mmh. Et ensuite, certains vous ont accusé, reproché d'avoir changé d'avis à l'occasion de ce déjeuner.
Oui, oui.
Notamment, Sepp Blatter avait évoqué cette hypothèse.
Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Mais j'ai jamais changé d'avis.
C'est pas Nicolas Sarkozy qui vous a convaincu.
Vous savez, quand vous êtes français, au comité exécutif, vous représentez la France, qu'il y a un vote, dans le vote, il y a les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, le Japon, la Corée et d'autres pays, c'est un vote quand même politique. Donc un jour, j'ai appelé l'Élysée, j'ai dit, j'aimerais bien dire au président de la République pour qui je vais voter, qu'il le sache. Point final. Je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait les gens là. Mais les mêmes gens, je les avais vus 3 semaines avant parce qu'ils étaient venus présenter le dossier de la Coupe du Monde à tous les membres du comité exécutif. Donc je ne suis pas venu présenter à eux. Voilà. Après, donc, moralité, n'allez pas déjeuner à l'Élysée parce que vous pouvez avoir que des emmerdes après.
Vous êtes retourné depuis ce déjeuner avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée ou pas?
Non,
présidents?
Oui, j'ai vu le président Macron, oui, la dernière fois, oui. Il y a un an et demi.
Qui vous a soutenu?
Oui.
Ouais, discrètement,
tout le monde m'a soutenu. Personne m'a aidé, mais tout le monde m'a soutenu. Non, ça c'est vrai. Non, tout le monde m'a soutenu. Donc, j'ai toujours bien dit les choses positivement. Mais notamment, j'ai demandé qu'on m'aide à la CEDH, parce que je suis à la CEDH, à
la Cour européenne des droits de l'homme.
Et c'est vrai que l'appui de la France est important. Parce que j'étais quand même un Français qui était à ça d'être la personnalité la plus importante du sport dans le monde. Bon, et comme c'est politique, donc j'ai besoin des appuis politiques de temps en temps.
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Michel Platini, vous êtes d'origine italienne, sont vos grands-parents qui sont venus s'installer en Lorraine après la Première Guerre mondiale.
Après la Première Guerre mondiale.
Votre avis sur le débat actuel aujourd'hui sur l'immigration en France et sur la volonté du gouvernement de la limiter?
C'est compliqué, je pense que l'immigration dans les années 20, 30...
Je vous pose la question parce qu'on adore
30...
faire du foot, un exemple merveilleux d'intégration en France.
Oui, j'imagine. Moi aussi, souvent, j'étais un fils d'émigré italien qui joue en France. Mais bon, je pense qu'à l'époque, quand nos grands-parents sont arrivés, il y avait plus de travail en France, c'était beaucoup plus facile. C'était entre les périodes de guerre, donc il y avait beaucoup de place. Aujourd'hui, le débat, c'est l'immigration, c'est l'aide à des gens qui ont des besoins énormes. C'est-à-dire que quand on peut aider des gens dans notre pays à se soigner, à venir travailler, à avoir une meilleure vie, ben c'est le rôle de notre pays de pouvoir les accueillir et de les aider. Après, bien sûr, c'est au gouvernement de décider combien il en faut, combien il en faut pas, je sais pas. Mais c'est le boulot des politiques.
Mais quand vous dites c'est au gouvernement de décider, effectivement, c'est ce qu'il envisage de faire, parce qu'on évoque l'hypothèse de quotas de migrants économiques annuels. C'est exactement l'inverse de la logique qui est en cours dans le football depuis le fameux arrêt Bosman de 1995. Il n'y a plus du tout de quotas dans le football. On peut jouer avec autant de joueurs étrangers qu'on veut dans un club.
C'est sûr que c'est une bonne chose, l'arrêt Bosman.
Et vous? Vous seriez pour le rétablissement, justement, aussi de quotas de joueurs étrangers dans les clubs?
Pas quotas, mais je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le football, si on pouvait étaler toutes les valeurs de tous les joueurs dans beaucoup plus d'équipes qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus facile. Aujourd'hui, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. Tout est basé sur la richesse. En revanche, avant, quand vous aviez 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs étrangers, c'était plus facile. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, par exemple, est un exemple bien précis. Le président est qatari, le directeur est brésilien, l'entraîneur est allemand, il y a un Français dans l'équipe. Pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain? Parce qu'il y a 40 000 personnes, il y a une grande population qui aime son club, d'accord. Mais bon, ça pourrait s'appliquer Coca-Cola ou autre chose. Je veux dire, pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain?
Et c'est l'artisan fair play financier qui dit ça. C'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné. C'est contourné.
Le fair play financier a été fait parce qu'à l'époque, il y avait des milliards de déficits. Et grâce au fair play financier, on est devenu à quelques centaines de millions de déficits.
Mais on a des clubs aujourd'hui au budget illimité. Le Paris Saint-Germain en est un.
Oui, mais du moment qu'ils donnent l'argent qu'ils ont, c'est une chose. Ce qui était interdit, c'est que l'argent vienne d'ailleurs par les propriétaires et qu'ils donnent. Ceux qui créent son propre budget, ils ont le droit de donner l'argent qu'ils veulent. Voilà.
Est-ce que l'argent, aujourd'hui, on pourrait parler du Qatar, mais d'autres pays qui s'offrent des clubs aujourd'hui ou des milliardaires, est en train de tuer le football?
Non, il ne tue pas le football. qui est une philosophie du football, mais tu pas le football. Le football n'a jamais été aussi beau qu'en ce moment. Les 100 meilleurs joueurs sont dans les 8 meilleurs clubs du monde. Donc le football aujourd'hui, vous regardez la Coupe d'Europe, magnifique.
Vous dites quand même que dans votre livre que le business menace le football. Vous dites il tue une philosophie.
C'est quoi, c'est-à-dire le jeu. La philosophie, c'est que quand tu es président de l'UEFA, toi tu veux que tout le monde participe à tes compétitions et que tout le monde ait une chance de les gagner. Ça se complique un peu en ce moment.
C'est
le rôle d'un président.
Maintenant, c'est le plus riche qui gagne.
Pratiquement, oui.
Et le rôle d'un président, c'est effectivement
le rôle d'un président, comme je vous l'ai dit, c'est que tout le monde puisse participer et que tout le monde puisse éventuellement pouvoir avoir une chance de gagner.
Comment est-ce qu'on pourrait rééquilibrer les chances des clubs qui ont des budgets inférieurs aux mastodontes du foot européen?
C'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui. Toutes les avancées que vous faites dans le football ou dans la vie, c'est difficile de revenir en arrière. Comme la vidéo, par exemple, ça sera très difficile de revenir en arrière.
La vidéo, vous y étiez défavorable.
Vous y êtes toujours
défavorable.
Mais oui,
la vidéo, pourquoi?
Ben, je vais vous raconter une chose. J'ai quand même joué pendant 20 ans devant des télévisions. Donc je sais très bien quand on dit il y a pénalty alors que le mec il m'a pas touché. Donc ça ne donne pas la justice. On a toujours l'impression que la vidéo amène la justice. Faux. Comme vous connaissez bien le football, je vais vous rappeler quand même que la finale de la Coupe du Monde, c'est un exemple. Les deux premiers buts. Le premier but, c'est une main. Le mec, il fait une main.
Quelle finale?
La finale de la Coupe du Monde où la France bat la Croatie. Vous vous souvenez?
La tête
du joueur, il a un mètre. Donc le mec, il fait ça, mais un pénalty.
Pour vous, il n'y a pas pénalty sur ce premier but.
La deuxième chose, il y a faute sur Griezmann. Le coup franc, il donne le but. Mais la télévision montre qu'il n'y a pas de faute. Donc pourquoi on n'a pas annulé le but? Donc ce sont toutes des choses qui s'apportent certaines choses, mais ça crée d'autres problèmes. Et je suis pas pour, parce que moi j'aime bien le football humain, on enlève les émotions. Maintenant vous marquez un but, vous allez attendre pendant 5 minutes si le but était valable ou pas. On joue les millimètres pour les hors-jeux. Alors que quand on dit hors-jeu, c'est hors-jeu, c'est-à-dire qu'on est en dehors du jeu. On n'est pas à 10 millimètres près. Donc c'est du bricolage, j'aime pas. Et
voilà. C'est-à-dire que les erreurs d'arbitrage, ça fait partie du jeu aussi.
On ne parle même plus d'erreurs d'arbitrage, on parle d'erreurs de la VAR. Les arbitres ont bien joué un bon coup, c'est qu'on ne parle jamais que l'arbitre a fait une erreur. C'est la VAR qui a fait une erreur.
Ça déresponsabilise l'arbitre.
C'est des marionnettes maintenant.
Ça veut dire que si vous reprenez des responsabilités dans le foot, vous y reviendrez ou c'est trop tard?
C'est compliqué d'y revenir. C'est compliqué d'y revenir.
Parce que c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui et que c'est considéré comme un progrès.
Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a deux choses. Il y a les lignes et après, il y a l'interprétation. Vous savez, le football, c'est un sport d'hommes, c'est un sport viril. Un sport de femmes aussi, mais c'est un sport viril. Toucher, c'est pas forcément faire faute. Alors, comment savoir si vous touchez ou vous faites faute? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, la vidéo vous apporte d'autres problèmes. Ça règle certains problèmes, mais ça en apporte d'autres.
Michel Platini avec nous jusqu'à 9h. On va parler des cris racistes dans les stades, si vous voulez bien, d'un petit jeune qui monte en ce moment dans l'équipe de France, qui va peut-être un jour vous rattraper en nombre de buts. Je donne pas son nom. Et puis ce sera déjà bien. Il est 9h-10 sur France Info. Le rappel des titres avec Mélanie Delaunay.
Des députés de la majorité s'apprêtent à voter contre certaines mesures du gouvernement sur l'immigration. Présentation tout à l'heure à 11h par Édouard Philippe et vote dès demain sur France Info. Le député LREM du Vaucluse, Jean-François Cesarini, trouve certaines mesures un peu limites niveau valeur. Il ne votera pas les amendements concernant la santé. 7 profs du second degré sur 10 affirment que leur travail a dégradé leur santé ces derniers mois. Enquête du SNES-FSU dévoilée par France Info avant une réunion au ministère cet après-midi sur la souffrance au travail des enseignants. Le financement des campagnes électorales du Front National au cœur d'un procès qui débute aujourd'hui à Paris et des soupçons de surfacturation de kits de campagne lors des législatives de 2012. L'accord de Paris sur le climat est irréversible. Les présidents français et chinois le réaffirment ce matin, 2 jours après l'officialisation du retrait des États-Unis. Le choix isolé de tel ou tel ne suffit pas à changer le cours du monde, commente Emmanuel Macron, sans citer Donald Trump.
France Info. Et tout est plus clair.
Faut-il interrompre les rencontres de foot en cas de chants, de banderoles homophobes, de chants ou de banderoles racistes dans les stades? Écoutez ce que disait Michel Platini, Noël Le Graët, le patron de la Fédération française de football, qui était notre invité il y a 2 mois.
Moi, je n'arrêterai pas les matchs. L'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair.
Ne pas arrêter les matchs pour les chants homophobes, mais les arrêter pour les cris racistes. Il avait fait la distinction, Noël Le Graët, ce qui avait fait débat à l'époque.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait de distinction dans les insultes. On ne peut pas avoir des distinctions dans les insultes. C'est impossible. Donc, il faut prendre des mesures contre les insultes. Après, c'est compliqué de prendre des mesures. C'est très, très compliqué.
Donc, on arrête tous les
matchs.
Parce
que les gens ils peuvent venir dans les stades pour insulter, ils n'en ont rien à secouer du football. Rien du fou. Rien. Ils peuvent venir pour insulter des personnes de couleur parce que ça leur fait plaisir, mais ils s'en foutent du football. Alors qu'on suspende toujours le club, les joueurs, c'est vrai. Ça débat. Il faut faire quelque chose. Quoi ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Très, très compliqué.
Arrêter les matchs, sanctionner les clubs, donner parfois match perdu aux clubs.
De toute façon, c'est pénal. Donc, ça devrait être la justice de notre pays ou des autres pays qui devraient prendre en charge ça. Pourquoi demander toujours au football de régler tous les problèmes de la société ? Quand vous insultez quelqu'un, une personne de couleur, vous êtes redevable de trucs pénaux. Donc voilà. Donc pourquoi le football ? Il faut faire quelque chose, mais je crois que c'est compliqué pour le monde du football de d'éradiquer ces insultes. Et puis à moins d'avoir des vraies conversations avec les supporters, leur faire comprendre que ce qu'ils racontent c'est pas bien. Et je pense qu'ils peuvent le comprendre très bien parce que ils sont plus dans la logique de l'histoire d'insulter les gens plus par rapport à ce qui se passait dans le temps que par rapport à une vraie conscience d'eux-mêmes.
Dans votre vie de joueur, puis d'entraîneur, puis de sélectionneur des Bleus, vous en avez entendu des insultes racistes, homophobes dans les stades ?
Il y avait moins de gens de couleur à l'époque, non.
Même en Italie, quand vous jouiez à la Juve ?
Non.
On a vu des joueurs...
Il n'y en avait pas à l'époque.
Récemment, quitter le terrain, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années, ça peut être la bonne réaction aussi de dire j'arrête.
Je pense que je ferai la même chose, mais là, vous ne me parlez pas du joueur, vous me parlez du dirigeant et de l'homme politique qui doit prendre des décisions, ou même des présidents de fédération qui doivent prendre des décisions légales devant la justice ou au Parlement. Là, c'est plus compliqué, mais si j'étais joueur, je quitterais peut-être le terrain.
Mais très concrètement, Michel Platini, il y a eu un exemple le week-end dernier en Italie, Mario Balotelli a été victime de cris raciste. Il a voulu, il a envisagé lui d'arrêter de jouer et ce sont ses coéquipiers qui l'en ont dissuadé. Et le match a continué. Est-ce que ça illustre pas aussi un problème au sein du football, c'est que on réussit pas à construire, à bâtir une forme de solidarité. Ses coéquipiers auraient dû aussi arrêter de jouer, non ?
Les mêmes supporters, ils insultent les gens de couleur de l'équipe adverse. Ils insultent jamais les couleurs de leur équipe. Jamais.
Et dans ces cas-là, que les équipes dont un joueur est victime de cris racistes arrêtent de jouer, c'est pas la première solution.
Qui sortent et puis qui mettent le problème. Après c'est pas simple. Hein. Non, sincèrement, c'est pas simple. De prendre des décisions, c'est pas très simple. Puis après, quand vous êtes mené, par exemple, c'est ce qu'expliquait M. Le Graët, quand vous êtes mené, vous faites des insultes, puis comme ça, ils arrêtent le match, et puis l'équipe, ça s'arrange.
Et puis on le rejouera après.
Puis après, je vous ai dit, les gens qui viennent dans les stades, ceux qui veulent vraiment insulter, ils viennent pas pour le football. Ils viennent, parce que c'est un exutoire, ils viennent se défouler sur des gens de couleur. C'est pas correct, ça. Je crois que ça devrait être plus un problème de justice, comme je vous l'ai dit.
Michel Platini, vous êtes aujourd'hui encore le deuxième meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France de foot, 41 buts. Il y a un petit jeune qui monte, qui s'appelle Kylian Mbappé, qui a tout juste 20 ans, qui lui en est déjà à 12. C'est le futur Platini où il va vous dépasser un jour.
Futur Platini, ça va être compliqué parce qu'il va beaucoup plus vite que moi. Très très vite.
12 buts à 20 ans.
Je lui souhaite de me dépasser, mais je souhaite à tous les joueurs de l'équipe de France et tous les avancés de l'équipe de France de me dépasser. Ça sera un signe de bonne santé de la part du football français.
Il sera capitaine un jour ? Il doit prendre le brassard, Mbappé ?
Je ne peux pas savoir. Il faut demander aux gens du groupe, à l'entraîneur, s'il mérite d'être capitaine. Il faut être dedans pour savoir. Moi, je ne suis pas dedans.
Ce qui est très dur, c'est de durer aussi, Michel Platini. Marc le rappelait à l'instant, Kylian Mbappé, il est très jeune. Quel conseil vous lui donneriez pour durer justement au sommet ?
J'ai connu Neymar qui était pareil que lui, qui allait très vite, il y a une dizaine d'années. Je l'ai vu jouer avec Santos, il allait très vite. Puis il a évolué son jeu, il revient un peu plus en arrière, il est un peu moins vite, mais il est plus créatif. Et je pense que Kylian, à un moment, il va s'apercevoir que la vitesse ne fait pas tout. Mais si on a le temps, il a 20 ans, il a encore le temps d'aller très très vite. Et puis dans une dizaine d'années, il va essayer d'aller moins, le corps va être fatigué, il va essayer de jouer un peu plus au ballon et de faire courir les autres.
Après tout ce que vous venez de vivre, Michel Platini, les 4 années de traversée du désert dont on a parlé...
Mais j'ai passé 60 ans de...
C'est ce que j'allais vous demander.
...de pas traverser du désert.
Est-ce qu'il vous arrive encore de prendre du plaisir, de taper la balle dans un coin, tout seul, avec des enfants, avec des amis, et tout simplement de retrouver le plaisir de taper le ballon ?
Oui, souvent je tape la balle avec mes petits-enfants, oui.
Ouais. Avec toujours la même joie ?
Oui, avec la même joie, oui.
Ouais. Pourquoi ça fait ça, le foot ?
Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis né dans une région avec mon papa entraîneur, famille sportive, italien qui regardait les matchs de foot. Puis à l'époque, on m'a pas donné d'ordinateur, ça n'existait pas. On m'a pas donné de casque, ça n'existait pas. Un ballon de football, c'était un cadeau en or d'avoir un ballon de football. Alors, sinon, je jouais avec des ballons mousse pour jouer pour. Un ballon de football et des chaussures de foot, c'était...
Ça fait moins mal, les ballons.
Pourquoi ça continue aujourd'hui, ça? Pourquoi est-ce que le ballon, il résiste à tout ça, justement, au casque, aux
ordinateurs? Parce que le jeu est magnifique. C'est vrai qu'il y a des enjeux, mais je vous rappelle une chose, c'est 99,99% des gens jouent pour le jeu au football. Et puis il y a 0,1% qui fait toute l'actualité, qui fait tout le business, mais qui joue pour des enjeux. Et quand les enjeux dépassent le jeu, ben, ça commence à se compliquer.
Ça s'appelle Entre nous, c'est aux éditions de l'Observatoire Michel Platini, c'est le nom du livre que vous publiez aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler sur France Info. Merci à Jacques Vendroux, le monsieur foot de Radio France qui a permis également cet entretien. Merci Michel Platini.
Merci à vous.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.